VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'Iran sur la défensive aujourd'hui à l'ONU face aux États-Unis, dont le président a remis en question l'accord nucléaire conclu avec Téhéran. Le bras de fer est au menu d'une réunion à New York des pays signataires de l'accord qui va donner lieu à la première rencontre entre le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et son homologue iranien Mohamed Javad Zarif depuis le changement d'administration américaine en janvier. Quant au président iranien Hassan Rouhani, il doit, lui, s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations unies au lendemain d'un discours très offensif de Donald Trump à l'égard de Téhéran. Le message de Donald Trump à l'ONU a fait plutôt bonne impression ici aux États-Unis. Le chef de l'exécutif américain s'est adressé pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations unies. M. Trump est resté fidèle à son message de campagne, ce qui consiste à mettre les intérêts américains en premier. L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État pour les affaires africaines, est satisfait du message de Donald Trump.
Oh, je crois qu'il a dit certaines choses qu'il a dit aussi aux Américains dans la campagne. Il dit que nous devons défendre les intérêts des États-Unis d'abord. Et il a encouragé tous les autres membres des Nations Unies de faire la même chose. Défendez-vous vos peuples d'abord et après nous pouvons coopérer pour la paix et pour la prospérité dans le monde. Et il a dit qu'il y a certains pays qui menacent la paix et c'est surtout la Corée du Nord et l'Iran. Il a souligné ces deux pays qui soutiennent les terroristes qui sont en train de produire les armes nucléaires et ça fait un grand menace pour la paix dans le monde et aussi il a parlé des terroristes, Hezbollah, l'État islamique, etc. Donc il y a beaucoup de menaces, il faut lutter contre ça. Je crois que c'est une réussite, c'était clair, c'était transparent, c'était pas subtil, mais tout le monde comprend maintenant la politique des États-Unis.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines. Tremblement de terre au Mexique, le bilan s'alourdit. Les autorités ont fait état ce matin d'au moins 248 morts dans plusieurs régions du pays. Le tremblement de terre de magnitude 7.1 est survenu après un autre séisme de 8.2 qui avait fait une centaine de morts dans le sud du pays au début du mois de septembre et 32 ans, jour pour jour après le grand séisme de 1985 qui avait ravagé la capitale mexicaine et fait plusieurs milliers de morts. Parmi les victimes figurent 21 enfants d'une école de Mexico qui s'est effondrée. Les recherches se poursuivaient pour retrouver une trentaine d'autres portée disparue. L'ouragan Maria a été rétrogradé en catégorie 4 à l'approche de Porto Rico qu'il devrait atteindre dans les toutes prochaines heures selon le dernier point de situation établi par le Centre américain des ouragans. Mercredi, peu avant 9h GMT, l'œil de Maria se trouve désormais à 75 km au sud-est de San Juan, la capitale de Porto Rico, située sur la côte nord de l'île. Selon les mesures du NHC, le vent souffle au maximum à 250 km/h. Maria, le second ouragan de très forte puissance à balayer les Antilles ce mois, a fait 2 morts à la Guadeloupe, des disparus à la Désirade et s'est abattu sur les îles Vierges avant de menacer Porto Rico.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Clôture aujourd'hui en RDC du Forum sur la paix, lancé hier par le président Joseph Kabila. Son objectif est de restaurer la paix dans cette région meurtrie par des violences qui ont suivi l'assassinat du chef traditionnel Kamuina Nsapu l'an dernier. Lors de son intervention hier, le président Joseph Kabila a exigé que justice soit faite au Kasaï, dénonçant ceux qui ont fait sciemment le choix de la désinformation dans ce conflit qui a fait 3000 morts en un an, dont 2 experts de l'ONU en mars. Mais Christophe Lutundula, député de l'opposition, regrette la non-invitation à ce forum de personnalités ayant, selon lui, un discours contraire à celui du pouvoir.
Réconciliation au Kasaï. On ne nous a jamais dit, nous n'avons jamais entendu, en tout cas moi pas, ni lu quelque part, qu'il y avait de conflits intertribaux, interclaniques ou intercommunautaires au Kasaï. Moi, je suis là. Je n'ai jamais entendu qu'il y avait un conflit entre Tela, Luba, Lulua, Songa, tout. Rien. Rien, absolument rien. On nous a dit au départ qu'en fait, c'est un chef Kamuina Nsapu qui n'a pas voulu
adhérer à la mouvance de Kabila. C'est normal, parce que Koutumier, la constitution de l'État Koutumier ne fait pas de la politique. C'est ce qu'on nous a dit. Et on n'a jamais démenti ça. On nous a montré que le ministre de l'Intérieur est allé réconcilier là-bas, tout ça. D'où vient le concept de réconciliation entre les communautés du Kassai? Bien au contraire, c'est le pouvoir, c'est Joseph Kabila qui doit se réconcilier avec les Kassaïens, qui ont été meurtris, qui ont été forcés à l'exil, qui ont vu leur bien être détruit, des chefs coutumiers tués.
Christophe Lounoudoula, au micro de notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahmane Dia. La commission d'enquête sur le Burundi a présenté hier un rapport de plus de 200 pages contesté par le gouvernement burundais. De l'avis de certains experts, ce rapport pourrait bien servir à la Cour pénale internationale si jamais des poursuites étaient engagées contre ce pays. Les précisions de Genève, François Hamson, l'un des membres de cette commission d'enquête sur le Burundi.
La Cour pénale internationale a entamé une procédure l'année dernière et le procureur pourrait demander à la Cour pénale d'ouvrir une enquête. La Cour aurait la juridiction pour voir s'il y a une base sur laquelle on peut avoir des procédures pénales au niveau international.
Vous êtes optimiste par rapport à ça?
Ça dépend de la décision de la Cour, parce que c'est à la Cour de décider. On nous a envoyé le petit rapport et le document long, un conference room paper. Peut-être là-dessus, ils vont demander au commissaire des droits de l'homme pour avoir accès aux bases de données, mais ça dépend du consentement des témoins. Dans ce cas, peut-être, le grand rapport pourrait être d'assistance pour le procureur, mais ça dépend d'eux.
François Hamson, membre de la commission d'enquête sur le Burundi. Au Cameroun, les rapports entre éleveurs et Mburuburu, et agriculteurs dans les villages de Botombo sont de plus en plus conflictuels. Ces éleveurs venus du Nigeria et du nord du Cameroun occupent un terrain du domaine national à 252 km de Yaoundé dans l'arrondissement de Bokito. Mais leur présence, qui dure depuis 5 ans déjà, n'arrange plus les agriculteurs. C'est le constat de notre correspondant Emmanuel Jules-Intab qui s'est rendu sur le site.
Le campement des Boros du village Botombo est constitué de 200 ménages pour une population de près de 1000 personnes. Avec elles, des bœufs qui sont devenus une source de conflits permanents, comme le témoignent deux agricultrices dont les champs sont voisins au campement Bororo dans le village Botombo.
Ça fait gaffe dans nos champs. Tout de suite, là, on part toujours voir.
On reste sans manger. Ça sera le problème de Dieu. Donc, c'est cela qu'on laisse tout partir.
Ils sont là depuis combien d'années?
Ça fait pratiquement 5 ans que les gens là sont ici.
Pour éviter le pire, des mécanismes de résolution des conflits ont vu le jour ici, sous les auspices d'un médiateur entre éleveurs Bororo et agriculteurs du village Botombo. Soulé Lakoudi est le médiateur.
Parfois, que nous, quand on ne comprend pas le français, je vais descendre au terrain, je vois comment le bœuf a fait le dégât. Si c'est quelque chose qu'on arrange ça, nu deux, personne qui le sent à le bœuf, si accepte ce qu'elle dit, le prix que Dieu, j'ai accepté, je lui donne, ni vu, ni connu. Ça me dépasse, j'ai choisi le chef du village, il nous a fait la convocation, on le saisit là-bas.
Malgré ces médiations, les Bororo n'échappent pas aux considérations culturelles et ethniques. Sa Majesté Michel Amata, chef traditionnel de Botombo.
Les populations agriculteurs, dans leur tête, ils sont propriétaires des terres. Et la population éleveur est considérée comme étranger. C'est un concept qui est là.
Venus du Nigeria et du nord du Cameroun, les Bororo du village Botombo ont d'abord transité pendant 10 ans dans le département du Noun, région de l'Ouest. Éternel étranger aux yeux des autochtones, là-bas, ils ont trouvé refuge 500 km plus loin, à Botombo, sur un site qui ne leur appartient pas, quoique inhabité auparavant. D'où le rôle d'assistance à leur côté des équipes de la plateforme de la stratégie nationale d'engagement sur la gouvernance foncière, dont Adamou Youssoufa est membre.
On est donc le conseil. Ils sont sur le domaine national. Quand ils sont là avec les bœufs, ils font suivre la procédure de concession. Ils voient que c'est le sous-préfet qui donne le terrain.
10 ans après la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le sort des Bororo du campement de Botombo inquiète le Centre pour l'environnement et le développement, une organisation de la société civile camerounaise qui milite entre autres pour le droit foncier. Issa Bachirou Manjo travaille pour le CED.
Nous avons beaucoup de défis en ce qui concerne la réforme foncière. Aujourd'hui, ces gens sont dans une situation où ils n'ont pas droit à cette terre, où quand ils venaient, il n'y avait personne qui était déjà arrivé là-bas.
À Botombo, personne ne peut dire avec exactitude ce que seront demain les Bororo de ce village.
Fin de ce journal, le prochain c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.